Quand on parle de passion du Christ, alors on pense à la croix, oui. Mais je vous propose de nous intéresser ce matin aux passions du Christ, au pluriel. La colère, la déception, la tristesse, le trouble, les larmes, l'étonnement, la compassion, la joie, l'amitié, le désir ardent, l'impatience et même l'angoisse. En effet, Christ était donc un homme de passion. Alors pour nous introduire à cette réflexion, je vous propose de prendre dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 2, les versets 13 à 22. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, ainsi que les changeurs qui s'y étaient installés. Alors s'étant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, avec les brebis et les bœufs aussi. Il dispersa la monnaie des changeurs, il renversa leurs tables, et il dit aux marchands de colombes, « Ôtez tout cela d'ici, et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit dans la Bible, « Le zèle de ta maison me dévore. » Mais les autorités judéennes prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Alors les Judéens lui dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi tu le relèverais en 3 jours ?» Mais lui parlait du temple de son corps. Aussi, lorsque Jésus se releva d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi, et ils crurent à l'Écriture ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à la force et à la bonté de ta parole, de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On entend parfois dire que notre civilisation serait judéo-chrétienne. Alors je pense que c'est une erreur. Alors il est bien question de judéo-chrétiens à propos de personnes qui, dans les premiers siècles de notre ère, suivaient la loi juive tout en pensant que Jésus est le Christ, le Messie. Le représentant le plus connu était Jacques, le frère de Jésus. Mais ce courant a rapidement, finalement, été assimilé par la foule des pagano-chrétiens issus du monde grec. Il existe encore aujourd'hui des juifs messianiques, mais l'immense majorité des chrétiens ne suit pas la loi religieuse juive. Alors pourquoi cette expression de civilisation judéo-chrétienne? À mon avis, c'est de la propagande politique, car ce n'est pas vrai donc pour les chrétiens, ce n'est pas sympa pour les juifs, comme si on gommait leur spécificité en l'assimilant à des chrétiens, et cela fait des personnes qui sont non-croyantes des sortes de sous-citoyens. Notre civilisation n'est donc pas, à mon avis, judéo-chrétienne. Il me semble qu'elle est biblico-gréco-latine, avec un enracinement important dans la Bible, même pour les non-croyants, évidemment. Les droits de l'homme, c'est finalement du jus d'évangile, avec un mode de pensée profondément inspiré par la pensée grecque et avec des lois inspirées par le droit romain. Et puis notre langue, elle provient en grande partie de la langue latine ou de la langue grecque. Donc ces 3 racines que sont Jérusalem, Athènes et Rome s'interpellent mutuellement dans notre culture et cela ouvre un magnifique espace de liberté, de dialogue, de profondeur. Mais il vaut mieux que ce soit réfléchi afin que nous puissions choisir entre ces différentes racines quand il y a alternative. Et cela fait que bon nombre de nos façons de penser, donc, sont un héritage grec plutôt que biblique. C'est ainsi que dans notre culture, il est considéré comme inconvenant, particulièrement pour un homme mâle, de pleurer, par exemple. Cela ne se fait pas d'élever la voix avec colère. C'est considéré plus ou moins comme enfantin ou comme déséquilibré d'avoir des émotions et encore plus de les manifester en société, même si c'est des émotions tirées de notre spiritualité, de notre foi. Eh bien, cela, c'est un héritage stoïcien. La Bible n'a pas ce préjugé. Elle ose montrer Dieu avoir de vives émotions, provoquant en lui des tensions internes avec, heureusement, l'amour qui l'emporte souvent. Comme par exemple dans ces paroles que l'on attribue à l'Éternel dans le prophète Osée. « Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues, mais je n'exécuterai pas l'ardeur de ma colère. » Du coup, la rumeur publique dans nos rues fait du Christ un doux Jésus tout à fait zen, sans affect, qui connaît une sorte de paix intérieure comme le miroir du lac quand il n'y a pas un souffle de vent. Ce Jésus imaginaire n'est pas celui de l'Évangile. Il répond plutôt au modèle d'un sage stoïcien ou d'un bonze bouddhiste. Alors, il y a de bonnes choses, bien sûr, dans le stoïcisme. C'est passionnant, ça mérite d'être lu et étudié, mais sur ce point en particulier, il me semble préférable d'être plus biblique que grec. En effet, Jésus, il vit intensément sa vie, avec des émotions parfois violentes, parfois bouleversantes, et il en fait quelque chose d'absolument magnifique. En effet, dans les évangiles, nous voyons Jésus être pris par la colère et la déception pas moins de 9 épisodes, par la tristesse et par le trouble, 5 épisodes, par les larmes et par les sanglots, 2 fois, par un étonnement qui le bouleverse, le fait changer de trajectoire, 3 épisodes, par une explosion de joie, 5 épisodes, par une subite prise en affection, 5 épisodes, ou par l'impatience de que ce qu'il espère puisse enfin arriver, 2 épisodes. Et donc, quand on parle de la passion du Christ, on pense à la croix, bien sûr, et qui débouche sur la résurrection, mais on pourrait parler des passions du Christ. Et effectivement, elles sont également source de résurrection, de vie incandescente. Alors le Christ nous autorise et il nous appelle à ne pas étouffer nos émotions. Elles sont la vie et par elles, nous sommes véritablement présents dans notre monde. Elles nous mettent en relation avec les habitants de ce monde. Par elle, nous recevons une énergie vitale nous permettant d'avoir de très belles impulsions, de très beaux cheminements de vie, de faire de belles choses. Mais comment le Christ transforme-t-il l'énergie brute de ses passions en un miracle qui est source de vie? Le philosophe juif Baruch Spinoza remarque à juste titre, que nous sommes esclaves de nos passions, de nos affects, de nos sentiments, que nous sommes impuissants à les gouverner et à les contenir. Et il nous fait cette proposition, finalement, proposition célèbre, à juste titre. Un affect ne peut être réprimé ni ôté que par un affect contraire plus fort. Si donc nous avons une addiction, si nous avons une passion, comme la haine, comme la colère, comme le dégoût de soi, par exemple, ou bien même l'envie de tirer une cigarette, par exemple, de sa poche, eh bien, pour convertir ces forces, ces impulsions qui nous gouvernent, il faut une contre-force positive d'une plus grande puissance. La seule pensée ne suffit pas, à moins qu'elle ne se transforme elle-même en passion. Alors, c'est ce que l'on voit, à mon avis, dans cet épisode de Jésus chassant les marchands du temple. En effet, les disciples de Jésus observent dans cet épisode, après ces faits, ils disent « Le zèle de ta maison me dévore ». C'est ce qu'ils analysent en voyant ce surprenant et libre Jésus agissant au début de son ministère. Le zèle, c'est l'affect supérieur dont parlait Spinoza. Ce zèle de Jésus, il l'explique en quelques mots dans ce récit. C'est la passion pour le fait que la maison de Dieu est notre corps, que Dieu est en nous, cœur à cœur avec nous, avec cette puissance de l'Esprit. Pour Jésus, la foi n'est pas croire en ceci ou en cela. Ce n'est pas tel ou tel rite. La foi, c'est une puissance, celle de Dieu en nous, qui guérit, qui remet sur pied le paralysé, qui ouvre les yeux de l'aveugle, qui ressuscite un mort. La foi est pour Jésus une passion immensément puissante. Elle transporte les montagnes, nous dit Jésus. Elle convertit nos passions. Ce zèle dévore donc nos passions tristes, comme le dirait Spinoza. Comme nous digérons des nouilles pour en faire une bonne énergie, nous rendant capables de grandir, pour quelques-uns, quelques-unes, pour moi c'est un peu plus limite, ou bien pour transformer donc notre énergie, me rendant capable d'avancer et d'agir d'une belle façon. Le zèle de la foi du Christ dévore ce petit moi étriqué comme une chenille qui refuserait à tout prix de devenir papillon. Si l'on prend la grille de lecture donc que Jésus nous apporte ici et que les disciples comprendront plus tard, le temple qui importe n'est pas le bâtiment à Jérusalem qui n'est qu'un objet parmi tous les autres objets du monde. Le temple qui importe, c'est notre corps, notre âme, où Dieu est présent. Les marchands du temple, c'est alors nos petites passions calculatrices qui attendent une récompense, nos aliénations, notre ego qui fait du troc. Je t'aime afin que tu m'aimes. Je fais le bien pour être reconnu. Je prie pour que Dieu me bénisse. Je me fais chrétien pour avoir la vie éternelle. Ce commerce, c'est la logique de l'intérêt personnel, finalement, même avec Dieu, même avec nos proches. Il ne suffit pas de comprendre à quel point c'est nocif. La question est d'arriver à changer notre logique interne, à changer le logiciel. Et pour cela, il faut, comme le dit Spinoza, je pense, une force puissante, comme pour Jésus ici, avec son zèle pour Dieu en lui. Cette passion permettant de déplacer la montagne de nos passions, pas de les détruire, sinon nous deviendrions une sorte de zombie apathique, mais de les convertir, ces passions, en bonne impulsion de vie. Alors c'est ce que le Christ nous propose dans un autre passage de l'Évangile. Il nous dit ce secret finalement. Si quelqu'un veut avancer à ma suite comme lui, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors nous pouvons lire notre croix comme ces passions, ces forces que nous subissons et qui nous aliènent, peut-être qui nous abattent à terre, peut-être qui nous tuent même. Prendre notre croix, c'est regarder en face ce qui nous mène par le bout du nez, ce qui nous cloue, ce qui nous enchaîne, ce qui nous fait souffrir. Ce sont nos passions tristes, comme Spinoza les appelle, la peur et les faux espoirs, la haine, l'envie, la colère, la culpabilité, le sentiment d'être indigne, la pitié qui n'agit pas, la joie méchante du malheur de l'autre. Alors il est bon de renoncer, bien sûr, à ces dimensions de nous-mêmes, ne pas se complaire dans ce moi aliéné, égoïste, étriqué, désespéré. Ce n'est bien entendu pas une destruction de notre être que nous propose Jésus en disant « prenez votre croix », mais une libération de notre moi vivant et sensible. Alors comment faire ? En faisant face donc à ces passions, et puis en suivant le Christ, c'est-à-dire en étant passionnés nous-mêmes, passionnés par sa façon d'aimer, passionné par sa foi et son attachement à la fidélité de Dieu pour nous. Nos passions sont alors transformées, nos croix peuvent devenir résurrection. C'est ce dont témoigne l'apôtre Paul lui-même, qu'il a vécu par la foi, par son expérience vive du Christ. Il nous dit « L'amour du Christ nous presse. » Littéralement, l'amour du Christ nous passionne. C'est une passion qui nous emmène. Cet amour qui anime Jésus est une passion plus puissante que tous nos démons. C'est ainsi que quand le Christ ressent de la colère, par exemple contre des personnes méchantes, alors il y a les théologiens qui refusaient qu'il guérisse quelqu'un le jour du sabbat. Il y a même ses disciples qui empêchaient les quémandeurs d'aide de s'approcher de Jésus. Alors Jésus est donc en colère. Et il nous dit que bien souvent, l'Évangile nous montre que bien souvent, sa colère devient en fait une tristesse de voir que la méchanceté s'est emparée de ces personnes, qui sont bien mieux que ce qu'elles pourraient sembler avec leur méchanceté. Et puis, cette tristesse de Jésus devient volonté de leur venir en aide à ces personnes aussi qui sont prisonnières de ces passions mauvaises. C'est ainsi que quand le Christ se laisse surprendre, par exemple par une foi qu'il n'attendait pas, qui le surprend, c'est le cas par exemple quand il rencontre un centurion, bien sûr, même pas monothéiste, mais dont vraiment la foi l'épate, ou bien une femme étrangère qui quémande une aide pour son enfant. Eh bien, Jésus se laisse surprendre, étonné. C'est le signe d'une vraie rencontre. Et Jésus se laisse alors déplacer, lui aussi. Il s'émerveille et il le dit publiquement. Et ça le porte à la louange. C'est ainsi que, quand il a un sentiment d'affection qui le prend, comme par surprise, là aussi, cela lui arrive plusieurs fois. Eh bien, Jésus dit qu'il en est physiquement remué, qu'il est pris aux tripes. Il ne manque pas alors d'agir d'une façon remarquablement créative, novatrice, féconde. Oui, cet amour du Christ nous presse. Il transforme nos passions en élan de vie. Amen.